Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La conversation et sélection du Reader's Digest. Au programme, la race d'un chien influence sa personnalité, mais son propriétaire aussi. Faut-il cesser de voyager? Quatre façons de savoir si votre chat vous aime selon la science. Et prénom. Pourquoi choisissons-nous tous les mêmes? Bonne écoute!
La race d'un chien influence sa personnalité, mais son propriétaire aussi. Un texte de Melissa Starling paru le 16 décembre 2022 dans le magazine La Conversation. Au cours des milliers d'années d'amitié entre les humains et les chiens, nous avons réussi à créer environ 350 races différentes. Nous avons compté sur les terriers pour la chasse, les chiens bergers pour s'occuper des troupeaux et sur toutes les races pour nous tenir compagnie. Mais dans quelle mesure la personnalité des chiens est-elle définie par leur race? Dans un article récent, des chercheurs américains analysent les codes génétiques de plus de 4000 chiens et interrogent 46 000 propriétaires d'animaux. Ils y relèvent de nombreux gènes associés à des comportements typiques de certaines races, comme la tendance des terriers à attraper et à tuer des proies. Leur conclusion indique que le type de race détermine en effet de nombreux aspects de la personnalité d'un chien. Cependant, les propriétaires jouent également un rôle important dans le caractère de l'animal, qu'il soit du type joueur, tolérant envers les autres, en quête d'attention ou enclin à aboyer. Examinons de plus près comment élever un bon citoyen canin. Ce que nous dit la recherche. Les races de chiens nous permettent de découvrir beaucoup d'informations sur la reproduction sélective et certains comportements observés dans des groupes de races, comme conduire des troupeaux et rapporter des proies, sont difficiles à expliquer. L'article américain cité plus haut nous donne des indices sur la manière dont certains de ces comportements ont pu apparaître. Les chercheurs ont analysé des échantillons d'ADN provenant de plus de 200 races de chiens. Sur la base de ces données, ils sont parvenus à établir 10 grandes lignées génétiques, dont les terriers, les bergers, les rapporteurs, les lévriers, chiens qui chassent à vue, les chiens qui chassent à l'odorat et les chiens d'arrêt et pagnols. Chaque lignée correspond à une catégorie utilisée pour des tâches précises, telles que la chasse au flair plutôt qu'à la vue ou la conduite du troupeau plutôt que la protection du bétail. Cela signifie que des races qui ne sont pas très proches, mais qui ont été élevés dans le même but, peuvent avoir des séries de gènes en commun. Cela avait été jusqu'ici très difficile à démontrer. L'article mentionne, par exemple, que les races de chiens de troupeau, comme le Kelpie et le Border Collie, sont caractérisées par une forte peur non sociale, c'est-à-dire une peur des stimuli environnementaux tels que les bruits forts, le vent ou les véhicules. Les terriers, comme le Jack Russell, se distinguent par un fort instinct de prédation, et les chiens d'odorat, comme le Beagle, par une faible aptitude au dressage. Ces caractéristiques correspondent à ce pourquoi ces chiens ont été créés. Les chiens de troupeau pour leur grande sensibilité à l'environnement, les terriers pour leur capacité à poursuivre et à tuer des proies, et les chiens comme les Beagle pour leur capacité à se concentrer sur les informations non visuelles, odeurs. Les chercheurs se sont intéressés de plus près aux chiens de troupeau en raison de leur comportement facilement identifiable et généralement inné de gardien. Il est intéressant de noter qu'un gène commun aux chiens bergers appelé EPHA5 a également été associé à des comportements de type anxieux chez d'autres mammifères, ainsi qu'aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH, chez les humains. Selon l'équipe de chercheurs, cela pourrait expliquer la grande énergie de ces chiens et leur tendance à l'hyperfocalisation sur des tâches. Poursuivons avec « La race d'un chien influence sa personnalité, mais son propriétaire aussi ». Ce que doivent savoir les propriétaires de chiens. Les scientifiques admettent depuis un certain temps que le comportement d'un chien dépend à des degrés divers de sa race. Mais il ne faut pas négliger le fait que son éducation façonne également sa personnalité. Une autre étude génétique publiée plus tôt cette année a révélé que si la lignée d'un chien est un facteur d'influence du comportement, ce n'est probablement pas le plus important. Ceux qui l'ont réalisé soulignent que le comportement canin est influencé par de nombreux gènes qui existaient chez les chiens avant le développement des races et qui sont présents chez toutes les races. Ils affirment que les races modernes se distinguent principalement par leur apparence et que leur comportement est probablement davantage influencé par des facteurs environnementaux tels que l'éducation et le dressage que par la génétique. Qu'est-ce que cela signifie pour un propriétaire de chien? Eh bien, si le comportement est influencé par la race, reste qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour avoir un bon compagnon. Ce travail est particulièrement important au cours des deux premières années de vie. D'abord, une socialisation précoce est importante. Un chiot doit être exposé à tous les stimuli que l'on souhaite qu'il accepte en grandissant, comme des enfants, des véhicules, d'autres animaux, des rues pleines de piétons, le sport, les voyages et le toilettage. L'on doit ensuite continuer à dresser et à guider son chien à mesure qu'il grandit pour qu'il se comporte de manière à assurer sa sécurité et celle des autres. Tout comme les enfants et les adolescents humains ont besoin d'être orientés pour arriver à prendre de bonnes décisions et à s'entendre avec les gens, les chiens ont besoin de soutien pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, vers 2 ans environ. Si la race n'est pas l'unique indicateur du comportement d'un chien en particulier, il est certainement judicieux de prêter attention à ce pourquoi une race a été élevée à l'origine. La nouvelle étude confirme ce point de vue. Les comportements qui ont permis aux chiens de faire le travail pour lequel les humains les ont sélectionnés sont probablement encore forts au sein d'une race. Cela signifie, par exemple, que si vous possédez des poules ou de petits animaux de compagnie comme des lapins, vous devriez y penser à 2 fois avant d'adopter un terrier et prévoir ce que vous ferez si le terrier veut chasser vos animaux. Si vous vivez en ville ou dans un immeuble d'habitation où il se passe toujours beaucoup de choses, cela risque de ne pas être agréable pour un chien berger. Et si vous voulez un chien très obéissant, les chiens d'odorat ne sont probablement pas un bon choix. Le choix d'un chien qui s'adaptera à votre style de vie est une affaire de probabilité. Il est tout à fait possible de trouver un chien d'odorat très obéissant et facile à dresser, ou un terrier qui peut vivre en paix avec des rats de compagnie. Toutefois, s'il y a un comportement précis que vous attendez d'un chien, mettez toutes les chances de votre côté en vous procurant une race connue pour ce style de comportement. Puis, consacrez beaucoup de temps et d'efforts à sa socialisation et à son dressage. Les chiens sont avant tout ce que nous en faisons, et ils nous rendent au centuple les efforts que nous déployons pour forger leur comportement. C'était « La race d'un chien influence sa personnalité, mais son propriétaire aussi », un texte de Melissa Starling, paru le 16 décembre 2022 dans le magazine La Conversation.
Faut-il cesser de voyager? Un texte de Courtney Shea, paru le 23 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Nous posons la question à Rachel Dodds, consultante en tourisme durable. Devant les effets négatifs du tourisme sur l'environnement et les populations visitées, faut-il cesser de voyager? Je ne crois pas que la solution soit de cesser de voyager. Le voyage est une merveilleuse façon d'être moins ignorant sur le monde qui nous entoure. Il suscite de l'empathie pour différentes cultures et stimule les économies locales. Non, il faut plutôt se demander comment mieux voyager. Aller du Canada à Amsterdam pour un week-end, puis 2 semaines plus tard, s'envoler pour Paris, illustre un des principaux problèmes du tourisme moderne. Il y a là un contre-coup environnemental auquel il faut réfléchir. Quel est l'impact du transport aérien? Considérable. L'avion est responsable de 12% des émissions mondiales de carbone et d'un peu plus de 3% des émissions au Canada. Éviter un vol équivaut à une année sans voiture. Si vous devez prendre l'avion, privilégier le vol direct. En effet, la majorité des émissions se produisent au décollage et à l'atterrissage. Que faut-il prendre en considération avant d'acheter un billet? Certains abandonnent toute forme de décence quand ils sont ailleurs. On appelle ça l'hédonisme des vacances. Ils consomment davantage, boivent plus, urinent en public, traite le personnel avec mépris. Un touriste a récemment lancé son scooter électrique dans le célèbre escalier de la place d'Espagne, à Rome, occasionnant des milliers de dollars de dommages. Ce genre de comportement crée des tensions entre la population locale et les touristes. Des lois ont été promulguées à Barcelone pour réduire le tourisme de masse. On a même vu, dans le célèbre parc Güell, un graffiti qui disait « Pourquoi l'appeler la saison des touristes si on ne peut même pas les abattre ?» Comment en est-on arrivé là? Le voyage a toujours existé. Dans l'ensemble, l'être humain est attiré par l'ailleurs. Mais l'apparition des avions à réaction dans les années 1950 a changé la donne. À l'époque, 25 millions de touristes voyageaient à l'étranger chaque année. Aujourd'hui, ils sont près de 1,4 milliard. Et puis en même temps que le voyage devenait moins coûteux et plus accessible, on a assisté à l'émergence de la classe moyenne dans les pays auparavant en développement, comme la Chine, l'Inde et la Russie. Cela s'est traduit par une augmentation du nombre de voyageurs, sans compter que la destination n'a plus d'importance. C'est-à-dire, nous ne cherchons plus l'authenticité ou la singularité. Nous voulons manger, boire, faire la fête et poster la photo d'un monument célèbre sur Instagram. Prenez les annonces des destinations tropicales. Dans bien des cas, on ne voit même pas la plage. Où est passée l'idée romantique de s'éloigner des sentiers battus? Le voyage d'aventure, il est vrai, n'a pas complètement disparu. L'Islande a lancé une campagne invitant les touristes à découvrir le pays à travers les yeux de ses habitants. Cela permet d'éviter les pièges habituels et de mieux sentir la société, son mode de vie. Mais ça n'intéresse qu'une petite portion des voyageurs. La plupart n'ont que 2 semaines de congé par an et veulent se poser sur une plage avec un pina colada. S'ils savaient que les employés gagnent moins $1 par jour et vivent à 3 heures de bus de leur travail parce que le tourisme a détruit le logement local, en auraient-ils toujours envie? Quels conseils donnez-vous pour voyager de manière plus éthique? De nombreux sites Internet recensent les centres de villégiature qui paient convenablement leurs employés ou établissent une liste des meilleurs restaurants ou boutiques régionaux. Nous votons avec le portefeuille, ne l'oubliez pas. Si personne ne va nager avec des dauphins en captivité, ces centres ne pourront survivre. Si 100 personnes exigent du directeur de croisière des visites guidées qui stimulent l'économie locale, la compagnie devra modifier ses pratiques destructrices. C'était « Faut-il cesser de voyager ?» un texte de Courtney Shea, paru le 23 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Quatre façons de savoir si votre chat vous aime selon la science. Un texte de Emily Blackwell, paru le 16 septembre 2022 dans le magazine La Conversation. Même les propriétaires de chats les plus dévoués se demandent un jour ou l'autre, peut-être en se réveillant en sueur au milieu de la nuit, si leur chat les aime vraiment. Ceux qui préfèrent les chiens affirment que ces animaux sont depuis longtemps les meilleurs amis des humains. Les recherches montrent toutefois que la réputation de froideur et de réserve des chats n'est pas méritée. En raison de leur histoire évolutive, les chats domestiques sont, par nature, plus indépendants que les chiens. Leurs ancêtres sauvages ne vivaient pas en groupe comme le font les canidés. Cependant, au cours du processus de domestication, les chats ont développé la capacité d'établir des relations sociales non seulement avec d'autres chats, mais aussi avec des humains. S'ils ne dépendent pas des humains pour se sentir en sécurité comme c'est le cas des chiens, de nombreux chats montrent de l'affection envers leurs gardiens et semblent apprécier la compagnie de ceux-ci. Leur attachement aux humains est en partie influencé par les expériences qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient chatons. Les chats se comportent envers les humains de la même manière qu'envers leurs amis félins. Ainsi, pour savoir si votre animal se sent lié à vous, il suffit d'observer son comportement. 1. Une affaire d'odeur. La capacité de communiquer avec d'autres chats sur de longues distances et lorsqu'ils ne sont pas présents physiquement était un avantage pour leurs ancêtres sauvages. Les chats de compagnie ont conservé ce super sens et recourent souvent à cette forme de communication. Les chats utilisent notamment l'odeur pour identifier les membres de leur groupe social ou de leur famille avec qui ils partagent un même profil olfactif. Les chats ont des glandes odorantes sur les flancs, la tête et autour des oreilles, et ils se frottent souvent la tête contre des personnes et des objets qui leur sont familiers et réconfortants. Votre chat se frotte-t-il la tête ou le flanc contre vos jambes? La sensation de douceur contre vos mollets est un signe que votre chat vous considère comme un ami et c'est un immense compliment. Si un chat s'avance vers vous la queue dressée, c'est bon signe. 2. Comment vous accueille-t-il? La façon dont votre chat vous accueille constitue l'un des signes les plus évidents de l'affection qu'il vous porte. Lorsque les chats rencontrent des membres de leur groupe social, ils émettent des signaux qui démontrent leur amitié et leur désir de se rapprocher. Ils en font tout autant avec les humains. Une queue dressée indique une intention amicale, l'équivalent félin d'un signe de la main, preuve de familiarité, de confiance et d'affection. Certains chats placent leur queue en forme de point d'interrogation pour accueillir quelqu'un qu'ils apprécient ou pour signifier qu'ils veulent jouer. Les chats entrelacent parfois leur queue en signe d'amitié et l'équivalent de cette pratique avec les humains consiste à enrouler leur queue autour de votre mollet. Le fait de rouler sur le dos et d'exposer son ventre vulnérable est un autre geste qui montre qu'un chat a une confiance absolue en vous. Cependant, les chats préfèrent être caressés au niveau de la tête et du cou. Alors, dans cette position, le chat ne souhaite généralement pas qu'on lui frotte le ventre. Les tentatives de flatter le ventre d'un chat entraîneront souvent un repli précipité, voire des coups de griffe. Le pipiment ou roucoulement est un son mélodieux que les chats émettent lorsqu'ils disent bonjour aux individus qu'ils préfèrent. Donc, si votre chat vous accueille ainsi, sachez qu'il est heureux de vous voir. Lorsque votre chat vous frappe à l'arrière du genou, cela peut aussi être le signe qu'il ressent un lien extrêmement fort avec vous. Version féline du topla. Le coup de tête est généralement réservé aux amis félins les plus proches et aux humains en qui ils ont le plus confiance. 3. Clignement d'yeux. Il se peut que votre chat vous signale secrètement son affection par la façon dont il vous regarde. Lorsque les chats rencontrent des humains ou des chats inconnus, ils les saluent généralement en gardant les yeux grands ouverts. Mais ils ont plus tendance à clignoter lentement des yeux devant des chats avec qui ils ont une bonne relation. Selon différentes recherches, les clignements lents sont associés à un état émotif positif et peuvent être un signe de confiance, de satisfaction et d'affection, comme le sourire chez l'humain. Si vous souhaitez lui rendre le compliment, clignez des yeux et votre chat vous répondra peut-être de la même manière. C'est une bonne façon de créer des liens avec des chats qui n'aiment pas qu'on les touche. 4. Les rapprochements. Les chats sont très protecteurs de leur espace personnel et n'aiment pas que des intrus l'envahissent. Si un chat vous permet de vous approcher de lui, c'est sans doute le signe d'un lien étroit en particulier lorsque le contact est fréquent ou prolongé. Lorsqu'un chat s'installe sur vos genoux pour une sieste, c'est qu'il vous fait vraiment confiance. Le toilettage ne se faisant qu'entre chats entretenant une relation chaleureuse, le fait de vous lécher la main ou le visage peut constituer une preuve d'affection, même si sa langue n'est pas des plus douces. C'était 4 façons de savoir si votre chat vous aime selon la science. Un texte de Emily Blackwell, paru le 16 septembre 2022 dans le magazine La Conversation.
Prénoms. Pourquoi choisissons-nous tous les mêmes? Un texte de Jane Pilcher, Birgit Egert et Catherine Beschgaard, paru le 29 juillet 2022 dans le magazine La Conversation. Le phénomène est courant. Vous attendez un enfant et vous vous mettez à voir des prénoms dans votre soupe. Peut-être songez-vous à des prénoms jadis démodés qui ont retrouvé leur fraîcheur, comme ceux de vos grands-parents qui s'appelaient Evelyne et Arthur au Royaume-Uni, Alice et Léo au Québec ou encore Rose et Gabriel en France. Et peut-être, comme bien d'autres, tiendrez-vous vos discussions confidentielles pour éviter qu'on vous vole vos idées. Et puis, Alice ou Gabriel arrivent à la crèche, au CPE ou à l'école, et leur prénom paraît soudain moins original. Il y en a 3 par classe et plusieurs autres dans la cour de récréation. Pourtant, lorsque vous aviez choisi, vous n'en aviez remarqué que très peu. Selon le sociologue américain Stanley Liberson, les parents ont tendance à opter pour les mêmes prénoms au même moment pour diverses raisons. Selon l'auteur de « A Matter of Taste », « How Names, Fashions and Culture Change », »« Question de goût, comment changent les prénoms, la mode et la culture », non traduit. Les choix sont gouvernés par le goût plutôt que par la coutume depuis la fin du 19e siècle. Or, les préférences générationnelles se ramènent à des changements sociétaux et à des courants culturels. En d'autres termes, le choix des prénoms suit les mêmes revirements progressifs typiques des effets de mode. Mécanique des prénoms trop populaires. Habituellement, les prénoms qui nous attirent sont rarement ceux de notre propre génération ou celle de nos parents. Associés à trop de pères, de professeurs ou de souvenirs, ils semblent trop usés pour être attrayants. Ça ne peut pas convenir à un beau nourrisson tout rose. En revanche, les prénoms de la génération de nos grands-parents, voire des arrière-grands-parents, semblent plus attrayants. Des recherches au Danemark montrent que les prénoms de filles à 2 syllabes se terminant par un A, comme Alma ou Clara, y ont gagné en popularité depuis 2000, un siècle après le pic précédent. Au Québec et en France, on observe des tendances similaires. Ce cycle de 100 ans est logique. Nous avons peu de souvenirs associés aux prénoms de cette génération. Et même si les parents font l'effort de prénommer leur précieux nouveau-né avec quelque chose d'unique, leurs goûts sont souvent alignés sur ceux des autres parents de leur génération. En matière de préférence générationnelle, il en va des prénoms comme pour le goût en matière de mobilier, de musique ou de coiffure. Bien sûr, tous les prénoms en vogue ne peuvent être rattachés à une génération particulière. La culture populaire joue également. Au Danemark comme au Québec, Liam n'avait jamais été un prénom courant jusqu'aux années 2000, lorsqu'il a commencé à figurer en tête des listes de prénoms de garçons. Cela pourrait s'expliquer par son association à des vedettes comme le rappeur Liam O'Connor, l'acteur oscarisé Liam Neeson ou le chanteur Liam Gallagher du groupe Oasis. Peut-être aussi parce que Liam est le diminutif de William, autre prénom très populaire au Québec. En 1991, les Françaises ont accouché de 14 087 Kevin. Cette vogue soudaine serait liée à 2 films immensément populaires sortis l'année précédente. Danse avec les loups, mettant en vedette Kevin Costner, et Maman, j'ai raté l'avion, dont le jeune protagoniste se prénommait Kevin. D'autres courants culturels agissent également. Au Danemark, après la Seconde Guerre mondiale, des prénoms anglais comme John ou Tommy sont devenus à la mode sous l'influence des libérateurs de l'époque. Dans le monde francophone, l'anglomanie explique largement la mode des prénoms internationaux d'influence anglaise comme Noah ou Emma. Aux États-Unis, on sent l'influence du mouvement des droits civiques. Chez les Afro-Américains, on préfère désormais le Karim du basketteur et activiste Karim Abdul-Jabbar au bon vieux prénom biblique comme Elijah et Isaac. Et comme nos sociétés se diversifient comme jamais, des parents d'origine différente auront tendance à opter pour des formules adaptables à plusieurs cultures, où l'héritage culturel passe au second plan, après les goûts personnels. Des tendances internationales. Comme pour toutes les tendances, la mode des prénoms varie d'un pays à l'autre et d'une langue à l'autre. Le prénom le plus populaire au Québec depuis 25 ans, William, n'apparaît même pas parmi les 100 premiers prénoms en France. Parfois, cependant, certaines tendances traversent les frontières physiques et linguistiques. Noah et Ella figurent dans tous les palmarès des prénoms au Danemark, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Dans le monde francophone, on voit la même chose pour Arthur et surtout Emma. La vogue de ces prénoms touche tout le monde occidental depuis 25 ans. Plus récemment, les recherches montrent que les lignes bougent quant aux perceptions sur le genre des prénoms. Dans le monde anglophone, il existe une tendance marquée pour des prénoms unisexes. Au Québec, par ailleurs, un prénom masculin comme Charlie se classe 5e parmi les prénoms féminins, quoiqu'on observe rarement l'inverse pour des garçons. La tendance aux prénoms composés évolue aussi diversement. Alors qu'ils ont presque totalement disparu au Québec, ils reviennent en force en Angleterre et au Pays de Galles. Ivy Rose chez les filles ou Tommy Lee chez les garçons, et ils commencent à réapparaître en France. Chose certaine, si vous voulez réellement que votre prochain enfant se distingue, le prénom à penture pourrait bien être la chose à faire. Ou peut-être pas. C'était « Prénom, pourquoi choisissons-nous tous les mêmes? » un texte de Jane Pilcher, Birgit Egert et Catherine Beschgaard, paru le 29 juillet 2022 dans le magazine « La Conversation ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin, Lynn Lamarche et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.